VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui n'avoir subi aucun chantage de Donald Trump, suspecté aux États-Unis d'avoir suspendu une aide militaire pour obtenir que Kiev enquête sur le fils d'un rival politique. Il n'y a eu aucun chantage de ce type à référence à un appel téléphonique qui vaut au président américain d'être sous la menace d'une procédure de destitution initiée par les élus démocrates. Sur place ici aux États-Unis, Joe Biden, candidat donc à l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche, a appelé hier pour la première fois à lancer une procédure de destitution contre le président américain dans le cadre de l'affaire ukrainienne. Donald Trump a immédiatement réagi en qualifiant l'ancien vice-président de pathétique. Jacques Aristide.
Pour Joe Biden, le président Trump a trahi le pays. Pour protéger notre constitution, notre démocratie, nos principes fondamentaux, dit-il, Donald Trump doit être visé par une procédure de destitution. Longtemps favori dans la course à l'investiture démocrate pour 2020, l'ancien vice-président est désormais à égalité avec sa rivale Elizabeth Warren, d'après les derniers sondages. Donald Trump a réagi sur Twitter. Tellement pathétique de voir Joe Biden l'endormi qui, avec son fils Hunter et aux dépens du contribuable, a arnaqué au moins deux pays pour en tirer des millions de dollars, demander une procédure de destitution contre moi alors que je n'ai rien fait, écrit-il. Joe Biden est au cœur de l'affaire qui a poussé les démocrates de la Chambre des représentants à ouvrir une enquête en vue d'une éventuelle procédure de destitution. Ils accusent Donald Trump d'avoir exercé des pressions sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour enquêter sur le démocrate et son fils Hunter Biden. Des accusations déjà rejetées par les deux présidents.
En Syrie, les forces turques se sont emparées de plusieurs de leurs objectifs et poursuivent leur progression sur la rive orientale de l'Euphrate, a assuré aujourd'hui leur état-major au lendemain du lancement de l'offensive contre les Kurdes du nord-est de la Syrie. L'offensive a débuté moins de 3 jours après la décision du président américain Donald Trump de redéployer une partie du millier de militaires américains présents à la frontière turco-syrienne. L'offensive turque, qui a déjà fait 15 morts, dont 8 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, sera au centre aujourd'hui d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président français Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui une augmentation de 15% sur 3 ans de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le chef de l'État français devrait annoncer en début d'après-midi aujourd'hui le total des ressources disponibles pour le fonds avec l'objectif de rassembler 14 milliards de dollars. La contribution actuelle de la France s'élève à 1,08 milliard de dollars sur 3 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le continent en Tunisie. La Cour de cassation a ordonné hier la libération de Nabil Karaoui, l'homme d'affaires qui doit affronter dimanche le juriste indépendant Kais Saied au second tour de la présidentielle. Il est maintenant sorti de prison. Par ailleurs, les résultats des législatives augurent de tractations difficiles pour former un gouvernement. Idriss Fall a joint notre confrère Lofty Touati. Il est le directeur de la rédaction de Zitouna TV à Tunis.
C'est vrai, la justice vient d'ordonner la libération de Nabil Karaoui. Donc c'est la Cour de cassation qui a ordonné de libérer Nabil Karaoui. C'est un soulagement pour les prochaines élections parce qu'il y a eu des discussions sur le déséquilibre de la campagne électorale. Ils veulent reporter les élections, certains veulent annuler les élections fédérales, mais je pense que malgré certaines réserves pour certains de la libération de Nabil Karaoui, je pense que maintenant, le mois prochain, il va y avoir un certain équilibre entre les deux candidats. Ça va permettre à la Tunisie de retrouver un certain équilibre politique. Ça va permettre à l'Assemblée nationale de choisir donc, le prochain gouvernement. Et je pense que c'est une voie vers la stabilité de la Tunisie.
Si les élections, le second tour a lieu dimanche, mais il n'y aura presque pas de campagne pour les deux.
Et maintenant, il va y avoir une campagne pour les deux candidats. Pour Kais Saied et pour Nabil Karaoui. La justice a ordonné, donc on doit laisser la justice travailler et se cantonner à préparer les élections présidentielles dans de bonnes conditions. élections, parce que maintenant nous sommes dans un tournant important, un tournant décisif, et la situation en Tunisie ne permet pas de reporter les élections ou d'annuler les élections. C'est l'avenir de la Tunisie, et c'est l'avenir de la stabilité en Tunisie. On prend le côté positif de cette libération et on espère que c'est un pas vers la conciliation nationale, un pas vers la désignation d'un gouvernement.
Justement, parlant du gouvernement, les résultats des législatives de dimanche, en fait, aucun parti n'a pu obtenir la majorité absolue. Donc, la formation du gouvernement, ce seront des tractations laborieuses, j'imagine.
Oui, c'est vrai que personne n'a eu une majorité confortable. Plutôt, il n'y a pas eu de majorité. Une cinquantaine de sièges pour Nara. Il nous manque donc 59 autres sièges. Il est possible que Nala puisse choisir son gouvernement avec la collaboration et notre coalition de Karama, de Taïar démocrate. Bon, il y a des tractations entre Nala et certains partis politiques pour la désignation d'un gouvernement de coalition.
Lofti Touati, il est journaliste à Zitouna TV. C'est à Tunis, en Tunisie. L'otage américain Jeffrey Woodke, enlevé en octobre 2016, est en vie et en bonne santé, a assuré le président nigérien Muhammadu Issoufou, cela dans une interview à la chaîne de télévision américaine ABC. Lionel Gaïma.
L'information que nous avons, c'est qu'il est en vie et en bonne santé. Et nous allons continuer à tout faire pour créer les conditions de sa libération, affirme le président nigérien dans cette interview réalisée en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En juin 2018, le président Muhammadu Issoufou avait déjà déclaré que M. Woodke ainsi que l'otage allemand Jörg Lang étaient toujours en vie. Woodke a été enlevé en octobre 2016 à son domicile à Abalak dans la région de Taoua. Un soldat nigérien et un gardien civil ont été tués pendant le kidnapping. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens ont été tués par des djihadistes près de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le Pentagone avait expliqué que le but de l'opération était de capturer un chef djihadiste soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de Jeffrey Woodke.
Le sida et la rougeole menacent également en République démocratique du Congo, où l'épidémie d'Ebola monopolise l'attention depuis 14 mois. Médecins sans frontières et UNICEF tirent la sonnette d'alarme. Eddy Sango.
Ebola a tué en plus d'un an plus de 2100 personnes dans le Nord Kivu. Cette épidémie est plus médiatisée. Pourtant, 17 000 personnes sont mortes des maladies liées au sida en 2018 en RDC, où 450 000 personnes, d'après l'ONU Sida, vivent avec les VIH. Le taux de prévalence des 0,8% est bien plus faible que dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Médecins sans frontières demande un financement ambitieux pour enrayer l'épidémie, estimant qu'à peine 57,7% des personnes infectées ont accès à un traitement. Par ailleurs, l'UNICEF souligne que 4 000 personnes ont succombé à l'épidémie de rougeole depuis janvier 2019, sur plus de 200 000 cas. Les enfants de moins de 5 ans représentent 74% des infections. L'UNICEF a vacciné plus de 1,4 million d'enfants. La RDC lance à partir du 22 octobre une campagne de vaccination contre la rougeole dans chacune des 26 provinces.
Merci Eddy. Des dizaines d'étrangers campaient mercredi au Cap devant les locaux du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, demandant à partir d'Afrique du Sud où ils ne s'estiment plus en sécurité, environ 250 personnes parmi lesquelles de nombreuses affirmant être des demandeurs d'asile originaires de divers pays africains ont déclaré s'être rassemblés mardi en promettant de ne pas quitter les lieux tant que le HCR n'aurait pas réglé leur situation. Une vague d'émeutes xénophobes a affecté plusieurs villes sud-africaines en septembre. Ces troubles ont causé la mort d'au moins 12 personnes, dont une majorité de Sud-Africains, et de vives tensions entre Pretoria et Abuja, les deux principales puissances du continent. Et puis le gouvernement ivoirien a adopté hier en Conseil des ministres plusieurs mesures fiscales pour favoriser la transformation du produit de l'EVA, le caoutchouc, secteur qui traverse une crise ces dernières années. La filière ivoirienne, qui compte 200 000 planteurs et des dizaines de milliers d'emplois indirects, souffre en raison de la chute des coûts mondiaux. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.